leurs leçons sur les pays qui ont été les pionniers en la matière. C'est-à-dire tous ceux qui se sont collés un petit peu sur... qui ont compris que la verticalité du processus est essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme aux Pays-Bas, où on accepte d'avoir des coffee shops, des endroits où on peut aller acheter du produit et le consommer, mais il n'y a pas de réelle légalité pour amener le produit de l'extérieur jusqu'à l'intérieur du coffee shop. Et ça, c'est des zones de gris qui existent là, qui existent en Espagne, qui existent dans les pays qui ont un petit peu commencé au tout début, mais qui ont hésité ou qui ont essayé de trouver leur chemin. Ceux qui y sont allés, qui ont ouvert, c'est-à-dire qui ont décidé de produire, de contrôler, de taxer et de vendre de A à Z, ceux-là ont des résultats vraiment très bons.
Donc pour que ça fonctionne, il faut contrôler la production, la distribution.
Oui, comme n'importe quel produit. Ouais. Enfin, c'est comme si on vous disait, vous pouvez vendre des œufs, mais on n'a pas le droit de vous dire d'où ils viennent.
Mais est-ce que dans ces pays-là, marché noir s'arrête ou il y a toujours un marché parallèle?
Non, le marché noir existera toujours. Vous savez, on est allé en Espagne avec la Guardia, là, en bateau, passer la nuit harnaché avec des trucs, avec des lampes et des machins. On a fini par attraper 12 mecs qui vont aller en prison pour trafic de cigarettes. La cigarette, vous pouvez en trouver n'importe où depuis des décennies, quoi.
Donc, est-ce que vous craignez pas quand même que la légalisation du cannabis dédramatise le cannabis dans l'esprit des gens et notamment dans l'esprit des jeunes, en face un produit banal et finalement augmente la consommation?
C'est bien le but
du produit.
C'est déjà un produit banal. Vous pouvez le trouver n'importe
pas
où.
Pas tellement, parce que ça reste interdit quand même.
Oui, ça reste interdit, mais ça joue à l'effet du teenager qui essaye quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. À partir du moment, et on le voit dans le documentaire, à partir du moment où on légalise, il y a un jeune Québécois de 15 ans qui dit, c'est quand même assez plate. On n'est plus, c'est pas à la mode, quoi. Ça devient un truc de vieux, ça devient un truc légal, c'est pas.
Dans ce cas-là, est-ce que ce jeune de 15 ans, il va pas vouloir aller vers un truc plus dur qui sera interdit?
Ça va développer.
On peut aller n'importe où. Non, mais justement, le cannabis n'est. Vous savez, le cannabis est une drogue totalement naturelle, contrairement à toutes les autres drogues. Le problème qu'on a en France, c'est que, par exemple, si moi j'ai des enfants, j'ai une fille de 16 ans, j'ai une fille de 22, un petit de 13 ans. Le jour où ils vont vouloir y aller, ils vont passer par. Les numéros internet, sur WhatsApp, c'est n'importe accessible sur Instagram d'une manière très simple et très facile pour tous nos adolescents. Et ils vont avoir accès à des gens qu'ils ne connaissent pas et qui vont devoir donner de l'argent. On ne sait pas à quoi ça va servir. Et surtout ces gens-là, et ça je l'ai vu, on l'a vu directement, c'est très rare qu'ils ne vendent que ça. Donc quand vous allez leur acheter du produit du cannabis, qui est le produit qui coûte le moins cher sur le marché, ils vont vous proposer aussi de la coke. Ils vont aussi vous proposer des extasies. Et là, vous allez rentrer dans un système où c'est pour moi ce qu'on appelle la porte d'entrée, que le cannabis, la porte d'entrée sur d'autres drogues, oui, mais au niveau du dealer, pas au niveau du consommateur. C'est très rare qu'un consommateur de cannabis, sauf pour faire la fête comme n'importe qui, décide de partir en sucette. Mais par exemple, c'est complètement inverse. Le cannabis et l'alcool sont deux produits qui ne vont pas ensemble. Vous ne verrez jamais... une bagarre dans la rue de gens qui ont trop fumé du cannabis.
Non, mais ça leur fait pas de bien quand même. Je comprends pas l'idée
ça fait pas du bien, non? Comme les cigarettes ne font pas du bien, non?
Oui, mais la cigarette, par exemple, on essaye d'en sortir. Je comprends pas l'intérêt.
Tout à fait, c'est exactement ce qu'il faut faire.
De militer pour la légalisation d'un produit qui est quand même très néfaste. Le
problème n'est pas là. Le problème est que le produit est là. Les enfants, tout le monde y a accès. 6 millions de personnes qui fument au quotidien. Ça, c'est juste ce qui est déclaré. À mon avis, c'est beaucoup plus. C'est là. Okay, c'est dans la pub, c'est dans la musique que les gens écoutent. C'est partout. Ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture. Donc, il y a des séries entières à la télé qui sont faites là-dessus. Oui. Ça fait partie de la culture. Soit on continue de dire, on tape sur la doigt des gens depuis 50 ans, on fait ça et ça ne marche
pas.
Non,
ça ne fonctionne pas.
On
dépense un pognon de dingue. Pour l'expression présidentielle.
En attendant, nos mômes achètent du produit, ils ne savent pas ce que c'est, à des gens qui ne connaissent pas, sur lesquels ils peuvent avoir accès à d'autres choses qui sont plus graves. Et il suffit de faire ce que les autres pays ont fait, c'est-à-dire de se prendre un petit peu en main et de dire, oui, le problème est là, ok, contrôlons le problème. Si la répression fonctionnait, s'il n'y avait pas de cannabis dans la rue, je ne poserais même pas la question. Je dirais, ok, on est dans un pays répressif où la répression a fonctionné, il n'y a pas de cannabis dans la rue. Voilà, si vous voulez en trouver, c'est très rare, c'est très cher.
Mais vous savez, monsieur Kassovitz, il y a des pays qui ne sont pas forcément des états de droit, mais qui parviennent à lutter efficacement contre le trafic de drogue. Enfin,
qui ne sont pas des états de droit, non, qui coupent la main des gens.
Non, pas qui coupe la main. Des gens. Excusez-moi, par exemple, vous allez dans les Émirats, vous n'avez quasiment pas de drogue.
Les Émirats viennent d'ouvrir à l'alcool. Je crois que c'est les Émirats ou Dubaï, je ne sais plus quoi. Ils viennent d'ouvrir à l'alcool.
Mais c'était déjà ouvert à l'alcool.
Non, mais je ne sais plus quel.
Et puis on peut pas prendre comme exemple. Enfin, notre modèle, c'est pas les Émirats.
Exactement, on peut pas.
Mais ils ne coupent la main de personne. Simplement, ils ont une réponse.
Enfin, c'est prison à vie.
Ils sont en train de s'ouvrir eux-mêmes. Ils étaient prison pour tout ce que vous faites. Si vous insultez quelqu'un, si vous déchirez un billet, si vous faites n'importe quoi, vous pouvez faire de la prison pour 2-3 ans juste parce que vous avez crié dans la rue. Ok, donc c'est pas vraiment le. C'est pas vraiment les pays sur lesquels on peut être modèle.
Ce que je veux dire par là, c'est que les pays qui décident d'être répressifs avec les consommateurs, ils arrivent à faire reculer la consommation.
Ça ne marche pas. La France en est un des plus répressifs et ça ne marche pas.
Avec les consommateurs.
Ça ne marche pas. Vous avez 6 millions de
consommateurs. Avec les consommateurs, on est répressifs.
Il y a des amendes maintenant.
Mais peanuts, enfin. Mais il y a une impunité totale pour la consommation de drogue en France.
Pourquoi on est passé du zéro à maintenant juste une petite amende si on se fait attraper en fumant un joint dans la rue, tandis qu'avant c'était prison parce qu'on pouvait risque
200 euros l'amende.
200 euros, parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons. C'est aussi quand même la raison.
C'est parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas remplir les prisons avec un truc aussi bénin que ça. Parce que maintenant, le monde change. Et le monde a étudié la plante. Le monde a étudié la consommation. On a vu ce que ça donne. Ça fait des décennies, des siècles qu'elle fait partie de notre culture. Et on continue, nous en France, qui
est les gens, excusez-moi, moi je connais des consommateurs de cannabis.
Mais comme n'importe quoi, comme n'importe quel médicament que vous allez acheter, que votre médecin qui est quand même donne à des enfants de 16 ans parce qu'ils ont des angoisses.
Mettons
le cannabis sous ordonnance. Dans la majorité des pays. La majorité des pays sont passés, avant de passer au légaliser l'ensemble, sont passés par
le thérapeutique.
Là, vous le monde. Et le thérapeutique est tellement positif qu'on a décidé d'ouvrir au reste. Non, mais pas peut-être. Oui. On continue en France à regarder dans l'autre sens, à taper sur le doigt des gens. Et les gens n'en ont rien à foutre. Parce que vous n'allez pas mettre en prison quelqu'un pour fumer un joint.
Si on a fait une opération
en France, on ne s'attaque pas aux consommateurs.
On a dépensé énormément d'argent et de moyens pour faire des opérations dans toutes les grandes villes.
Maintenant, je vous dis un truc. Ne tapez pas sur les consommateurs. Empêchez les consommateurs d'avoir un produit. Donc taper sur les dealers, ça marche.
Non, moi
XXXXXL.
Moi je suis pour taper sur les consommateurs.
Mathieu Kassovitz.
Parce que tant qu'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Ça c'est dans n'importe quel marché capitaliste. Et on est exactement dans un marché capitaliste. Il faut prendre ce marché en main. Il faut le taxer. Il faut le réguler.
Il faut
se servir de cet argent-là comme on s'est servi pour la taxe sur les cigarettes. On est quoi, taxé 50% sur les cigarettes?
Au moins.
Où les tabagistes ne gagnent rien sur un paquet parce que tout est ponctionné autour. Pourquoi ? Pour prévenir les gens de ne pas fumer. On n'avait pas dit arrêtez, les cigarettes sont interdites. Non, les cigarettes sont là et il y a du trafic, il y a du marché noir. Par contre, on dit, et c'est le tabac, la majeure partie de l'addiction qu'on a quand on se met à fumer des joints, elle vient du tabac plus que de l'herbe elle-même. Donc c'est tout un processus où on peut commencer à se dire qu'on est un petit peu...
Non, mais ça va être bien. Allez, la discussion est lancée.
Sur la discussion.
Voilà, Mathieu Kassovitz va aller présenter son film sur le cannabis. Après France 5, il va aller à l'Assemblée nationale. Question de Jean-Loup Bonamy, question de Joël Dagosséry. À tout de suite avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Ben ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
Moi, je fais bien la différence entre les radios qu'on entend et les radios qu'on écoute. Et RMC, on l'écoute.
Vous écoutez RMC, RMC vous écoute. Le standard RMC vous attend au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h-midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Charles Consigny, avocat. Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie. Joël Dagosséry, coach de... Alors attention, vous avez entendu le petit jingle, la sirène, c'est le moment... Vous avez 5 minutes, hein, pas plus, 5 minutes devant vous pour m'envoyer ROUE, R-O-U-E par SMS au 732-16. ROUE par SMS au 732-16 et vous ferez tourner la roue dans tous les shows d'RMC et peut-être gagner jusqu'à 20 000 euros. Ça vaut le coup, c'est la roue multicash. Donc ROUE pendant 5 minutes par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.
Alors ROUE, R-O-U-E, mais il paraît que R-O-U-X ça marche aussi parce qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe et donc on accepte aussi R-O-U-X. Mais oui, ah, Joël.
Bon, allez, Mathieu Kassovitz est avec nous pour ce film Cannabis qui est passé sur France 5, qui va être diffusé à l'Assemblée nationale. On discute, on débat de la légalisation, de la dépénalisation. Madame Joël Dagosséry, vas-y.
Mais quand je vous écoute, en fait, vous avez les mêmes arguments que tous ceux qui sont pour la légalisation. Ce sont des aveux d'échec, en fait. C'est, on n'y arrive pas. On a essayé de la répression sur le consommateur, la répression sur le dealer. Ça fonctionne pas. Alors, on n'a qu'à légaliser. Enfin, c'est un peu, moi, je trouve l'argument un peu court dans le sens où ça reste un produit dangereux, notamment pour les esprits jeunes.
Un peu
enfin,
quoi?
Un peu court.
Un peu court, oui, dans le sens où ça reste un produit.
Elle avait dit un peu con.
Un
mais
peu...
Elle n'a pas dit ça.
Non, je ne serais pas permis.
Je voulais savoir comment j'allais engager la discussion.
Non, du tout. Il allait m'engager. Non, pas du tout. Non, mais ça reste un produit dangereux. Enfin,
bien sûr.
Vous me parlez de 16 ans. Moi, j'ai vu des amis à moi qui ont commencé à fumer très jeunes. Enfin, ce sont devenus des zombies. Enfin, à l'école, ça ne suivait plus correctement, etc. Donc, quand vous me dites qu'à 16 ans, on est angoissé et que du coup, on va se tourner vers ce produit-là, on peut aussi dire aux jeunes de 16 ans qu'on peut traverser l'adolescence.
Sans forcément aller vers
ce produit-là. Et la vraie question dans notre pays, c'est pourquoi est-ce qu'on est le pays le plus consommateur du cannabis ? Pourquoi est-ce qu'on est si névrosé, si angoissé ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, au lieu de la répression, une politique de prévention, mais vraiment de prévention ?
Vous faites exactement le discours des gens qui veulent la légalisation. C'est le problème... C'est qu'il faut contrôler tout ça et que les gens soient au courant. Les enfants, si, par exemple, est-ce que vous avez des enfants ?
Oui.
Est-ce qu'on leur, ils ont quel âge ?
14 ans.
Bon, il y a eu un cours sur les drogues en classe ?
Non, du tout.
D'une manière générale, sur toutes les drogues ?
Non, du tout.
Bon, bah alors, ça c'est déjà un problème.
C'est vrai qu'il n'y a pas de campagne de prévention parce que
vous avez vu les campagnes de prévention faites par le gouvernement français sur le ministère de la Santé ? Elles sont dramatiques. C'est des trucs où tout le monde rigole, surtout ceux qui fument. C'est des histoires d'accidents de voiture avec tout le monde est mort avec la fumée qui. Du truc. Ça passe plus. On est en 2024, bientôt 2025. Le reste du monde s'ouvre. C'est pas comme si on essayait de faire quelque chose de révolutionnaire en France. On se posait pas. Moi, j'ai jamais été pour la légalisation, réellement. Mmh. Ça n'a jamais été mon problème. Je suis un fumeur depuis 25 ans, mais je n'ai pas. Je suis pas.
Militant.
Comment dirais-je ? Je suis pas un militant, non. C'est pas un militant. Mais depuis quelques années où je voyage et que je vois que le monde s'ouvre, où, par exemple la Thaïlande que j'adore, où on pouvait se faire 11 jours de prison plus 100 000 bahts d'amende si on se faisait attraper avec un joint il y a un an et demi. Maintenant, c'est la fête à Neneu où tout est ouvert.
Alors, est-ce que ça augmente le nombre de consommateurs ? Est-ce qu'au Québec, il y a plus de consommateurs aujourd'hui ?
Mais non, parce qu'il faut être logique.
Ça baisse.
Il faut être logique. Le produit est là. Les gens qui le vendent sont là. Ils sont là. Ils sont à 5 minutes.
Là ?
Là ? Juste là. Là
ça ?
J'en ai recroisé. Il y en a deux ou trois dans la régie. Ça rigole.
Ça rigole dans la régie. Ils ont l'air d'approuver aussi.
Mais non, mais ils sont tous défoncés. Écoutez, comment vous voulez qu'ils tiennent ?
Bon, on dirait un wagon fumeur, là.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a bien réussi à faire la régulation sur la cigarette à cause de la prévention. Et des lois qui sont passées. Par exemple, on va en Thaïlande, vous avez le droit de fumer, d'acheter à tous les coins de rue, vous n'avez pas le droit de fumer des cigarettes dans la rue. Vous n'avez pas le droit de fumer un joint, il faut aller dans la rue, à des endroits spécialisés avec un panneau dessus. Et ça c'est un travail de prévention.
Donc légaliser pour mieux réguler, si je comprends
tout
bien.
Tout à fait. Et puis informer, taxer. cette taxe-là qui fait par exemple au Québec retourne dans les fonds du ministère de la Santé, la prévention à l'école et le libre arbitre, le choix de ces enfants qui soit vont essayer ça ou autre chose. C'est le moins dangereux de ce qu'ils peuvent essayer. Le plus chiant par rapport à ça, c'est l'accès au tabac. On les laisse avoir accès au tabac, à l'alcool. Enfin, je comprends pas. C'est pas comme si on était dans un pays totalement répressif sur tout et qu'on essayait de. Enfin, on n'est pas justement. Je sais pas. On n'est pas en Arabie Saoudite ou Jean, Macron, on n'est pas l'alcool, rien.
Monsieur le prof de philo.
Oui, non, mais je suis un peu surpris puisque là vous venez à l'instant de dire. Je vous cite. Vous moquiez un peu les campagnes de prévention officielles. C'est voilà, le conducteur a fumé. Il y a eu un accident. Ils sont tous morts. Ça fait rire tout le monde. Bah, moi, qui viens d'une ville qui s'appelle Besançon, je me souviens qu'il y a 3 ou 4 ans, bah il y a un garçon, il sort avec son pote et tout. Il fume des joints. Il rencontre 2 filles en boîte de nuit. Ils montent tous les 4 en voiture et le conducteur avait fumé. Il prend un poteau sous l'emprise du cannabis. 3 morts, son meilleur ami et les 2 filles qu'ils avaient éprises. Et ça, ça ne serait pas arrivé avec la cigarette, parce que je vois bien l'argument, c'est de comparer le cannabis à la cigarette en disant oui, mais si la cigarette est légale. Mais c'est que la cigarette n'a pas d'effet neuroleptique, elle n'a pas d'effet.
Non, l'alcool, oui, par exemple.
Oui, l'alcool,
donc ça
oui,
pourrait être fait par l'alcool, ce qui est généralement fait tous les jours sur toutes les routes de France. Oui, c'est des accidents qui sont dus à l'alcool et pas à la
mais
cigarette.
Mais donc, c'est que la campagne dont vous moquiez n'est pas si débile, puisqu'elle si correspond à des cas réels.
Si, alors, si par exemple, si vous cherchez des études, quand on parle directement avec Justin Trudeau, comme j'ai eu la chance de le faire, les questions qu'on lui pose, parce que c'est pour ça qu'on y est allé. Moi, j'y suis pas allé convaincu, j'y suis allé avec des questions. Et quand on te répond, pas seulement il y a une réduction des fumeurs entre ce qui était prévu avant et ce qui est prévu après, parce que plein de gens dans le business ont fait faillite parce qu'il n'y a pas autant de consommateurs et que ce n'a pas été le boom que tout le monde attendait, parce que les gens sont déjà là et qu'ils fument déjà. C'est déjà un choix. Donc, ils ont juste accès plus facilement à ça. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est par rapport au, excusez-moi, qu'est-ce qu'on disait sur l'alcool?
Oui, c'est un effet neuroleptique.
Et que quand on parle d'accident de voiture, quand on parle d'accident de voiture, il n'y a pas plus d'accident de voiture qu'avant. Ce n'est pas dans leur fichier, ça n'a pas été recensé. Donc, on peut pas dire par rapport. Si l'Allemagne qui vient de légaliser, ok, c'est légalisé depuis 3 mois, ok. Dans les premiers jours où vous allez à l'Allemagne, c'est parce que c'est ça un peu qu'on le drapeau qu'on tend, l'épouvantail qu'on tend à chaque fois en disant on va légaliser, qu'est-ce qui va se passer. Si l'Allemagne, qui n'est pas le pays le plus rigolo au monde, au bout de 3 mois de légalisation, s'était rendu compte qu'il y avait plus d'accidents, de violences, de suicides, d'accidents neuroleptiques, de tout ça, vous ne pensez pas qu'ils auraient fermé ça tout de suite, comme tous les autres pays qui ont ouvert avant, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Thaïlande, comme le Portugal, comme l'Italie qui commence aussi, comme Israël, tous ces pays-là.
Pourquoi ? Parce que moi, je trouve que c'est un vrai débat et que c'est un débat en plus. C'est pas forcément binaire, c'est-à-dire que il y a des arguments pour, des arguments contre, mais
tout
pourquoi
à fait.
Ce débat on ne l'a pas en France. Alors là, à l'Assemblée nationale, votre film va être diffusé, mais on voit bien que c'est un sujet tabou. C'est-à-dire que à la présidentielle, alors que ça concerne des millions de gens, c'est énormément d'argent, c'est énormément de moyens policiers qu'on met en place, et donc des moyens policiers qu'on pourrait mettre ailleurs, mais qu'on met en place pour lutter contre ces trafics. Et il n'y a aucun débat. Même sur l'Europe, on pourrait aujourd'hui, au niveau européen, en parler, on n'en parle pas. Pourquoi ça?
Vous savez, vous me dites que je suis un militant et que je veux être. En fait, non, vraiment, on est parti pour faire ce documentaire, pour se poser la question. Et les réponses qu'on a trouvées sont plutôt positives. La question qu'on voulait se poser quand on fait ce documentaire, c'est justement lever le débat. C'est pas légaliser, c'est lever le débat. Parce qu'on ne peut pas. Plus aujourd'hui, avec le monde qui change autour de nous, ne pas lever ce débat.
On est dans le déni en France, parce qu'on est le pays européen où il y a le plus de fumeurs de cannabis. Donc c'est quand même extraordinaire.
Je ne sais pas, parce qu'on est un pays de fumeurs, mais je pense qu'on est surtout dans un pays de buveurs, qui concerne tout ce qui est amusement et
on boit de moins en moins.
Libération, tant mieux. Moi, vous savez, ma mère est morte d'alcoolisme très 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 sévère et je pensais pas que l'alcool pouvait faire atteindre quelqu'un à ce point-là. Donc, mais le cannabis, non, jamais. Il peut toucher quand des jeunes commencent à fumer à 13 ans. Oui. Ça, c'est un vrai problème. Parce que le problème, c'est que pourquoi un môme fume à 13 ans, c'est pas le cannabis qui le rend fou, qui le fait perdre ses moyens, c'est qu'il a un problème. Mmh. Et il va chercher quelque chose quelque part. Et au lieu d'être conseillé et d'aller voir un prof qui lui dit voilà ce que ça va faire, voilà comment il faut le faire, voilà. Ou aller voir un pharmacien qui puisse lui conseiller, lui dire tiens, c'est prouvé. Ça peut enlever tes angoisses si c'est pris sous forme de pilule, sous forme d'huile, comme n'importe qui. Il y a des gens qui ont des...
valeurs thérapeutiques.
Oui, mais on a interviewé un des seuls entrepreneurs qui est dans le cannabis en France et qui fait un petit peu de recherche là-dessus. Il a une sclérose en plaques. Il me dit que c'est le seul médicament, le seul médicament, puisque ce n'est pas encore un médicament en France, qui lui permet de vivre sans douleur et de ne pas être constamment sous antidouleur et qu'il le mette à plat.
Le 12 juin à l'Assemblée nationale, ce sera projeté devant les députés de toutes tendances confondues. Vous savez déjà.
J'espère que tout le monde va venir parce que là, un débat, ça se fait à plusieurs.
Y compris ceux du RN, par exemple.
Mais évidemment, n'importe qui doit venir. Bien sûr, il faut entendre tout le monde. C'est un débat.
Vous serez là pour débattre.
Et les filles viendront en tant que consommateurs.
À qui
les députés de France Insoumise.
Ils viendront témoigner de leur expérience personnelle.
Ils viendront tous avec les yeux rouges. Non, mais je ne sais pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que...
Le 12 juin, pas le 12 juin.
Je vais vous poser une question personnelle, Mathieu.
Oui.
Pourquoi vous fumez depuis 25 ans?
Parce que je ne bois pas. Parce que je ne prends aucun médicament. Je suis en forme. Je fais du sport. Je peux fumer avant dès le lever et aller courir 10 km.
Avant de venir, vous avez fumé un joint, par exemple?
Vous savez, on est en France, donc je ne peux pas vous dire, c'est interdit. Je n'aurais jamais fait des trucs comme ça. Non, bien sûr, je ne fume pas au quotidien.
Vous ne conduisez pas après?
Non, bah, évidemment.
Mais vous produisez votre consommation?
Non, madame.
Donc,
je la trouve dans la rue comme votre fils.
Non, moi, mon fils, non, j'ai une fille et Dieu merci, je l'espère en tout cas qu'elle ne fume pas.
Non, mais vous savez,
vous avez beaucoup traité du sujet des cités, etc. Et vous savez ce qui s'y passe avec les dealers. Et vous fumez. Et donc, vous savez comment.
Vous pourriez arrêter.
Vous savez les dégâts que ça produit.
Vous conduisez des voitures, vous savez les dégâts que ça fait, les voitures électriques ou les voitures.
Non, mais c'est pas du tout.
C'est la même chose, ça fait des dégâts partout.
Pourquoi ne pas arrêter, Mathieu?
Ah, mais je peux m'arrêter. C'est pas, le problème n'est pas d'arrêter ou de. Le problème n'est pas moi, allez. Hein. Le problème, c'est est-ce que des jeunes qui ne sont. Moi, j'ai 56 ans. Donc, j'ai une vie, je suis productif, j'ai une façon de gérer ma vie. Quand à 13 ans, tu ne l'as pas. À 16 ans, tu ne l'as pas. À 25 ans, tu ne l'as pas. Et il faut comprendre le processus. Et pour ça, il faut que ces jeunes-là soient préservés et alertés. Et ça passe par des fonds pour la sécurité, pour le ministère de la Santé, des fonds pour le ministère de l'Éducation.
Merci Mathieu Kassovitz.
Et pour la police,
le 12
fasse un
juin.
Bon travail sans que ça ait besoin de
le 12 juin.
Petit jeune
et pas le 12 juin.
RMC, les grandes gueules.
Les grandes gueules, c'est tout à l'heure de 9h à midi. On dirait que sur RMC, RMC Story. Avec vous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour débattre. Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, sera là. Tout comme le médecin généraliste de Haute-Garonne, Jérôme Marty. Et Zora Bitant, les cadres de la fonction publique en région parisienne.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
Salut, c'est Jérôme Roten sur RMC.
RMC, Roten sans flamme.
Roten sans flamme, c'est du lundi au vendredi de 18h à 20h sur RMC. Pour vous, chers auditeurs, j'ai réuni les meilleurs autour de moi. Éric Dimeco.
Je suis là.
Christophe Dugarry.
Présent.
Manu Petit.
Yes, Jérôme, I'm here.
Jean-Michel Larquet.
Oui, Jérôme, je suis là.
À tout à l'heure, 18h dans Roten sans
flamme. Jérôme, je suis là, moi.
Pascal, on a dit les meilleurs. À tout à l'heure, 18h dans Roten sans flamme sur RMC.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble pendant 3 heures avec aujourd'hui, autour de la table d'Estelle Midi, Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
Il y a également le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Le journaliste à Marianne, Perico Légas. Salut Perico.
Ah, je me suis acheté une veste en pensant à vous.
Mais oui.
Ah ben. Ma femme a dit que ça vous irait très bien.
Que moi ça m'irait très bien, cette veste-là est un peu grande. Ah non, ça me plaît, oui.
Que ça vous plairait.
Ah ben oui, ça me plaît, ça ne m'irait pas, mais ça me plaît. Très bien. Et puis nous sommes également avec la journaliste en incorrect, Juliette Briens. Bonjour Juliette.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
RMC, Estelle Midi.
On va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est le montant record des investissements étrangers dans notre pays dans le cadre du sommet Choose France. 15 milliards d'euros vont être déboursés par des entreprises comme Microsoft, Amazon ou STMicro pour implanter de nouvelles infrastructures dans notre pays. Rémi, contrairement à ce que pense une majorité de Français qui jugent que notre pays est en déclin, eh bien la France est plutôt très attractive.
Oui, pour la cinquième année consécutive, notre pays est le plus attractif d'Europe. C'est ce que dont se félicite l'Élysée à l'occasion de l'ouverture donc aujourd'hui du sommet Choose France à Versailles, salon qui se veut la vitrine de l'investissement étranger en France et qui sera présidé par Emmanuel Macron. 180 patrons étrangers seront présents pour un montant d'investissement déjà annoncé à 15 milliards d'euros au total. C'est un record. Parmi les grandes entreprises qui font le choix de la France, il y a le géant canadien de frites McCain qui va agrandir et moderniser ses trois usines qui existent déjà dans l'Hexagone.
C'est parfait.
La création d'un site de raffinage. Ouais, la création d'un site de raffinage de nickel près de Bordeaux pour une société suisse, ou encore des investissements chez Amazon, chez Microsoft, ou encore dans la pharmacie avec Pfizer, AstraZeneca et GSK. De l'argent investi donc dans notre pays, mais pas forcément des emplois créés. C'est là toute la nuance. Si la France est le pays le plus attractif en Europe, en termes d'investissement d'argent, ça on l'a compris, elle tombe au 8e rang en termes de création d'emplois. Nous sommes derrière le Portugal, la Serbie, l'Irlande, la Hongrie, l'Espagne, le Royaume-Uni et la Grèce. Les annonces faites à l'occasion du salon Choose France peuvent donc paraître bien abstraites aux yeux de nombre de Français. Ce n'est pas pour rien si, selon le dernier baromètre YouGov, 76% des Français ne sont pas convaincus par la politique économique de notre gouvernement.
Et ils sont plus de 60% à juger également que la France est en déclin. Doit-on être fier de la France après ce sommet Choose France 2024, Perico Légas ?
On peut l'être, avec toutes les réserves qui s'imposent, à savoir que
Vous mettez les réserves.
Énorme. C'est formidable. Mais ça devrait être beaucoup mieux. Sauf que nous assumons le fait de payer le prix d'un modèle social qui peut être dissuasif pour certains chefs d'entreprise. Il faut faire des choix dans la vie.
Oui, mais là, ce n'est pas dissuasif ce qu'ils viennent.
Alors, je vous dis que s'il n'y avait pas le modèle social en question, ils seraient beaucoup plus nombreux, avec beaucoup plus cher et plus d'emplois. Mais comme il y a une restriction française sur les lois sociales restrictives et les charges sociales qui sont dissuasives pour les investisseurs, on a beaucoup moins d'investissements qu'on ne pourrait ou qu'on ne devrait. C'est déjà bien d'avoir ça. Deuxième revers de la médaille, c'est quoi les investissements des sociétés étrangères ? Si c'est pour remplacer les industries qu'on a tuées et qu'on a déléguées à la Chine et importer ces produits, si c'est pour faire Amazon, dont un emploi créé en France en détruit trois...
3 000 emplois Amazon, là, ça va être.
Donc ça fait 9 000 emplois en moins. C'est 9, parce qu'un emploi d'Amazon, c'est... tout simplement, je vais vous expliquer, vous allez comprendre très vite.
Non, mais j'ai compris, mais quand aujourd'hui, vous roulez plus en calèche, effectivement, vous avez enlevé les conducteurs de calèche, vous voyez ?
Alors,
Tesla.
Alors ça, c'est l'argument que dit Amazon pour venir nous piller sans payer d'impôts. Vous voyez, donc je ne retiens pas cet argument.
S'ils sont implantés en France, bien
alors non, ils sont implantés en France pour qu'on puisse cliquer sur des produits qui viennent de Chine et qui viennent de Chine parce qu'on a détruit les emplois français. Oui. Donc, on va vers 3 000 emplois de plus qui vont évidemment ruiner un peu plus d'autres entreprises françaises sous la concurrence déloyale de produits chinois importés par un simple clic par Amazon. Donc, 3 000 emplois Amazon, c'est 9 000 emplois français en moins. Il faut juste assumer, mais il faut dire la chose telle qu'elles sont. Mais voilà, c'est tout. Voilà. Si une fois qu'on sait ça, on fait ce qu'on veut.
Juliette Briens, on dit bravo Emmanuel Macron pour ce succès.
Moi, je pense que c'est du vent, cette histoire, encore.
C'est 15 milliards, quand même.
Voilà. Du beau vent à l'approche des élections européennes. Bien sûr que c'est bien. Les investissements étrangers, on en veut dans la limite du raisonnable. Il faut qu'on soit attractif. Si on l'est un peu plus grâce à ce sommet et à quelques mesures de Emmanuel Macron, c'est bien. On parle d'IA. Donc, on parle d'industrie. Ouais. Et il parle de réindustrialisation et d'IA. Mais l'IA et l'industrie, c'est au niveau national qu'il faut faire des progrès. L'IA, on a pris un retard massif sur l'IA.
On est un petit pays après.
On est un petit pays, mais on a pris un retard massif sur l'IA. Sur l'intelligence artificielle, les États-Unis et la Chine nous ont largement devancé depuis longtemps. Et sur la réindustrialisation, il nous faut des industries françaises. Pas des usines McCain. Donc c'est du vent, ça ne dit rien de ce qui est mis en œuvre pour arrêter la fuite des cerveaux et la fuite des entrepreneurs à l'étranger, parce que ça, évidemment, personne n'en parle, c'est bien. On nous dit 15 milliards d'investissements étrangers, mais tous nos Français qui partent, tous nos entrepreneurs, nos Français qui vont investir à Las Vegas, à Miami, en Chine, même en Afrique du Nord, etc. Donc ça, c'est une réalité, ils sont en augmentation constante, j'ai lu un rapport du Sénat qui le dit, c'est tous les ans qu'on a de plus en plus d'étrangers qui partent, et ça devrait être ça la priorité. Et pourquoi ils s'en vont ?
Alors moi, ce qui m'étonne quand même, Thierry Moreau, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une grande entreprise française qui réussit, alors là, je pense à LVMH avec Bernard Arnault, je pense à Total.
On lui crache dessus,
on dit que c'est pas bien. Et là, il y a des entreprises comme Amazon, Microsoft qui arrivent, et là, on dit, oh, c'est génial, etc. Et donc, il y a quand même un truc qui est un peu gênant là-dedans.
Un paradoxe. Alors, il y a un paradoxe, et puis surtout, il faut se méfier du triple effet d'annonce. L'effet d'annonce, l'effet loupe et l'effet com, qui sont autour de cette chose. On nous annonce, donc, un certain nombre d'investissements. L'année dernière, il y a 530 entreprises étrangères qui ont créé ou agrandi des usines en France. 530. Donc là, on fait tout un raout à Versailles pour 56 projets. Il y en a eu 530 l'année dernière. Donc, attention à l'effet com.
Ça a pas ramené 15
attention.
Milliards.
Oui. Alors, ça représente combien d'emplois? 8000 emplois, selon le cabinet EY.
Ouais, bah c'est pas mal.
8000 emplois. On a 5,4 millions de chômeurs si on prend les trois tranches. A, B et C.
Oui, non mais d'accord. Vous n'êtes jamais content, en fait.
Non, je rejoins Perico. Enfin, 8000, tout ce foin pour 8000 emplois.
Ouais.
Excusez-moi. Et puis alors, il faut aussi...
C'est toujours 8000 Français, oui, je veux dire, qui vont retrouver un emploi.
Mais comme l'a très justement expliqué Rémi, il faut regarder tous les chiffres. Par exemple, le montant moyen investi par projet est en baisse en France depuis 2019.
Exactement.
Donc, on a un problème. Donc moi, je veux bien qu'on sorte Versailles, qu'on sorte les heures du château et que tout aille bien. Méfions-nous quand même de l'effet d'annonce. Je pense que derrière, il y a des réalités qui sont plus compliquées.
Est-ce que nos auditeurs et nos téléspectateurs sont fiers, en tout cas sur l'appli RMC Rémi?
Il y a encore du chemin pour convaincre. Ah, je pense qu'il y a BN qui nous écrit notamment « Bonjour, les milliards d'investissements, c'est bien pour le pays. » Mais de là à nous rendre fiers de la France, il ne faut pas oublier qu'on vit dans l'enfer fiscal, que le niveau scolaire est en chute libre dans notre pays, que les services publics sont minables. Et ça, ce n'est toujours pas réglé.
Enfer fiscal dont souffrent les Français, mais dont certaines de ces entreprises qui s'implantent
n'en souffriront pas, évidemment.
Évidemment exonérées parce qu'on leur fait le tapis rouge sur le plan fiscal.
Tout à fait.
Donc attention.
Et enfer fiscal et administratif.
D'ailleurs, les patrons français hurlent en disant pourquoi. Vous savez, comme qu'il solde.
Mais c'est ce que je te disais.
Voilà, le nouvel arrivant, il a un abonnement gratuit pendant 6 mois. Ah bon, ça. Et moi qui suis là depuis 15 ans.
C'est Canal Plus, quoi.
C'est
Canal Plus. T'es abonné depuis 20 ans, t'as rien.
Vous menacez de partir, ils vont faire une réduction.
Exactement.
Il y a un message, justement, à ce sujet de Pierre qui nous écrit sur Direct Studio, qui nous dit que lui, les commerçants, artisans, poissonniers, et nos PME sont en grande difficulté. Trop de charges patronales, trop d'augmentation. Beaucoup de nos artisans PME ferment. Qu'on s'occupe d'abord de nos PME et de nos entreprises. Avant de penser à l'étranger.
Mais vous imaginez le cynisme de cet homme quand même. D'aller se pavaner comme ça à Versailles pour nous faire...
C'est pas du cynisme, c'est de la com.
Mais oui, mais c'est du cynisme parce que comme le dit Rémi, on a les entreprises qui souffrent, qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'électricité, c'est une catastrophe. Et on a nos jeunes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de partir. Et lui va se pavaner à Versailles, on vous en croit.
C'est vrai que
l'industrie est relancée, la conquête de l'IA, alors qu'on n'y est pas.
Oui.
Non.
C'est vrai que ce matin, il y a pas mal d'articles d'éditorialistes économiques qui disent qu'il y a une déconnexion quand même entre ce qui se passe, et c'est très bien les investissements étrangers, et ce que vivent les Français, et que les Français se sont complètement déconnectés de ces annonces.
Ça va et un ouvrier peu qualifié pourra difficilement faire de l'IA. Quoi. Donc en fait, c'est pas non plus des métiers Microsoft, c'est pas forcément des métiers pour tout le monde. Alors on a justement François en ligne qui nous appelle de Marseille et qui est directeur artistique. Bonjour François.
Bonjour Estelle, bonjour à toute la tablée, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
François, c'est Cocorico ce matin, vous êtes fier d'être Français et d'attirer autant les investisseurs étrangers.
C'est littéralement du grand pipeau. La première des choses, c'est une promesse de 15 milliards.
Oui, c'est vrai.
Il y a déjà la première nuance. La seconde nuance, c'est que ces 15 milliards-là, ils vont jamais être injectés directement dans l'économie ou dans l'État français. Ensuite, sur ces 15 milliards, combien il y a eu d'aides à l'investissement? Combien il y a eu de subventions pour ces investissements? Combien il va y avoir de crédits d'impôt pour ces investissements vont être payés par le contribuable français? Ça, je voudrais le savoir. On n'a pas la facture à ce sujet-là.
On ne l'aura jamais, je vous rassure.
On ne l'aura jamais parce que M. Macron est spécialiste du pipeau. Ensuite, ce qu'il faut savoir, par exemple, les 4 milliards de Microsoft, qui est le plus gros investissement, qui va être d'abord dans l'extension de ces serveurs cloud et de ces serveurs IA actuellement en France, plus on en crée un autre. Le premier bénéficiaire de cette technologie, ça va être la société Nvidia, qui est le leader incontesté. Donc c'est eux qui vont bénéficier déjà des milliards que Microsoft va investir en France.
Oui, mais François, en même temps, Microsoft s'investit en France, donc ça veut dire des gens vont travailler, il y a des gens qui vont retrouver un emploi, ils vont travailler...
C'est peanuts. Et ça, il faut bien comprendre qu'une fois que vous aurez bâti votre data center en dur avec un petit peu de béton, un petit peu tout le reste de la technologie de l'infrastructure informatique, c'est de l'étranger. ça vient de l'étranger. Vous croyez quoi, quelques Nvidia, c'est français? Mais pas
non,
du tout.
Non, je sais bien. Non, mais je suis d'accord, François.
Et ça va être pour générer quoi? Des modèles d'intelligence artificielle qui, de toute façon, vont piquer du boulot à tout un tas de gens qui ont besoin de petits travaux pour avoir des revenus de subsistance.
Ça, c'est sûr, mais de toute façon, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois, donc autant que ça s'implante en France.
Ça va faire que renforcer la domination américaine sur l'IA en France.
Oui, mais enfin, de toute façon, la domination américaine sur l'IA ou chinoise, je veux dire, elle est plus à démontrer. Donc,
pas des grandes annonces, comme on va rattraper notre retard.
Dans le secteur, on a quand même quelques pépites dans le secteur de la tech et des startups et de l'intelligence artificielle notamment.
En tout cas, je vois que j'aurais du mal à vous convaincre, voilà, et que vous êtes quand même en majorité à penser que c'est un peu du pipeau. Merci François, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, François qui va pas très content, ouais, finalement de ces annonces. Est-ce que ça va être le cas de Boris qui nous appelle de Grenoble et qui est commercial? Bonjour Boris.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Boris, est-ce qu'on se félicite que les entreprises comme Amazon ou encore Microsoft ou STMicroelectronics veulent réinvestir massivement en France?
Ah bah, c'est l'avenir de la France, à manger des frites et commander sur Windows ou des articles chez Amazon.
Bah, on en est déjà là.
C'est l'avenir de la France. Macron ne fait que cacher les 15 dernières années où on a perdu des gros fleurons industriels français comme Arcelor, Péchinet, Alcatel, Essilor, Lafarge. Et Alstom, là où il a vraiment été au gouvernement avec quand il était ministre de l'économie, pour rendre Alstom à General Electric, qui pouvait être 1000 euros d'emploi à la clé en France.
Un crime.
Oui, mais regardez, vous parlez de McCain. Personne n'oblige.
Ils ont 50 millions d'euros d'amende.
Oui, mais vous parlez de McCain, qui effectivement va investir 350 millions d'euros pour créer des nouvelles usines de frites. Personne ne pousse les Français à manger des frites McCain, mais n'empêche qu'on les mange quand même. Donc, de toutes les manières, je veux dire, c'est qu'il y a un marché. Il s'implante et c'est qu'il y a un marché.
C'est un centre de production européen. C'est-à-dire que 80% des frites mangées en Europe viennent de cette usine.
Mais personne ne râle pour ça. Enfin, c'est pas ça le problème.
Non, pas pour ça. C'est que aujourd'hui, c'est juste de la poudre aux yeux. Ouais. C'est des millions d'emplois, des milliers d'emplois qu'on a perdus en France suite à 15 années de gouvernement où on a fait n'importe quoi.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, Boris, on fait quoi?
On
va pas se flageller pendant des années, en fait, une fois qu'on a dit ça.
On est les entreprises françaises qu'on a besoin.
Je suis tellement d'accord avec tous les intervenants, même François juste avant. On va créer des emplois sous-qualifiés. C'est pas des gens qui, c'est juste des gens qui vont faire de la maintenance.
Des manutentions.
Bah, c'est déjà ça. Vaut mieux faire de la maintenance que d'être au chômage.
Ah bon.
Je suis d'accord, mais c'est pas ce qu'il va faire du tout avec l'IA demain. La maintenance, ça n'aura quasiment plus.
Oui, voilà. Mais d'accord.
À payer, comme disait un intervenant, on survit aujourd'hui. On survit.
Ça, je suis un grand coup de subvention,
c'est nos impôts.
Voilà. On laisse l'artisan fermé parce qu'il a une facture qu'il ne peut pas payer d'électricité, voilà, et on donne des subventions à des boîtes étrangères qui viennent détruire les emplois. C'est Byzance.
Bah merci en tout cas Boris de nous avoir donné votre point de vue. Je sens qu'en fait au fur et à mesure de ce débat, je vois les ronchons.
On réalise l'ampleur de du drame.
Là Amazon qui veut implanter un nouvel entrepôt avant qu'ils aient des autorisations, parce que vous savez que ils avaient voulu implanter un entrepôt en Bretagne, ça a pas marché parce qu'il y avait des grenouilles, je ne sais quoi, ou je ne sais quel oiseau qu'il fallait protéger. Oui. Donc de toute façon déjà pour trouver un nouvel endroit pour implanter un entrepôt, c'est encore pas gagné.
Déjà qui paye des impôts en France, enfin bon.
Oui, mais les impôts, ils payent au moins la TVA, tu vois. Et c'est mieux que rien, tu préfères quoi?
Ah ben non, mais que comme ça, on peut tout de suite...
Je préfère rien, en fait, on fait
rien. Non, mais on peut gagner du temps. On peut fermer la boutique France tout de suite et tout sous-traiter à l'étranger, il n'y a pas de problème.
Il faut juste déconstruire un peu la com autour de ça, qui montre un truc super reluisant, formidable et génial.
Il fait exprès, c'est très bien ce qu'il fait.
Un peu tempérer l'enthousiasme, c'est tout.
Et ça se retourne contre lui, finalement.
Sur ce plateau, manifestement, oui, ça c'est sûr.
J'ai peur qu'on soit représentatif de l'opinion du peuple français.
Nous verrons ça dans le sondage. Nous avons Jean-Philippe Delsol, c'est notre invité sur ce débat, avocat fiscaliste et président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et sociale. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Estelle Denis.
Bonjour.
Vous avez entendu Jean-Philippe Delsol. Le plateau est plutôt critique par rapport à ce sommet Choose France, alors que c'est un record d'investissement, 15 milliards d'euros. On doit se féliciter et être fier ou pas du tout, Jean-Philippe?
Écoutez, je crois qu'il faut vraiment être content qu'il y ait des étrangers qui investissent, mais être quand même aussi prudent. Et je partage beaucoup de ce qui a été dit sur votre plateau. Alors, en fait, relativisons. On dit, cocorico, on est le premier pays qui accroche les investisseurs, qui attire les investisseurs en Europe.
Ouais.
Oui, en nombre de projets, c'est vrai. Sauf que les projets qui se font en France sont plus petits qu'ailleurs. Il représente 35 créations d'emplois par projet contre 61 au Royaume-Uni.
Ah oui, c'est pas beaucoup.
Et les projets étrangers dont on parle, pour 36% d'entre eux, ce sont des nouvelles implantations, 36% seulement, tandis que par exemple au Royaume-Uni, c'est 75% des projets qui sont des nouvelles implantations. Donc c'est beaucoup mieux. Alors, ça permet de relativiser. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr que c'est bien que la France attire des projets. Heureusement, c'est l'un des plus grands pays européens et c'est celui qui est le mieux placé. C'est celui qui est le plus au cœur de l'Europe. Et en plus, c'est celui qui est le plus plaisant. Quand vous demandez à des dirigeants américains ou à des dirigeants finlandais où est-ce qu'ils vont implanter leur entreprise, les dirigeants ils préfèrent aller en France plutôt que au fin fond d'un pays froid et pas très agréable. Donc, en fait, bien sûr, heureusement que la France attire des... Ouais.
On fait juste le boulot, quoi.
Il faut relativiser. Et en fait, le vrai problème, quand on fouille dans le sondage d'EY, là, dont vous parlez, eh bien, on s'aperçoit que les dirigeants étrangers qui viennent en France disent « Oui, c'est bien, on va être content, notre famille va être contente d'être à Paris. » Mais, et puis on ira sur la Côte d'Azur en vacances ou dans les Alpes, bon, super. Mais quel climat social ! Mais combien de prélèvements fiscaux ? La France, champion du monde. Les dépenses sociales, 31%.
Mais ils viennent quand même.
C'est 21% en moyenne.
Oui, mais ils viennent quand même.
Alors, ils viennent parce que d'abord, ils sont partout dans le monde. Voilà. Et puis, ils viennent parce que, comme je l'ai dit, il y a aussi d'autres avantages. Les Français sont plutôt compétitifs au travail. Il faut le reconnaître. Malgré tout le reste, ils travaillent, ils sont habitués à travailler avec une vraie compétitivité. Donc, tout ça fait qu'il y a un mixte qui n'éloigne pas tous les étrangers de France, mais qui non plus ne les accueille pas forcément
on n'a pas tous les avantages, mais je voudrais qu'on entende le témoignage de Fabrice. Fabrice, il est restaurateur à Fontevaux-l'Abbaye dans le Maine-et-Loire. Bonjour Fabrice.
Oui, bonsoir.
Et Fabrice, vous, ça vous réjouit pas forcément sous ces investissements?
Non, pas du tout, parce que je travaille H24 avec du personnel qui se donne à en permanence dans l'entreprise et voilà, donc on voit les charges, on voit plein de choses et on voit tout ce qui est fait de partie extérieure et ça me déplaît énormément et c'est vraiment dérangeant.
En fait, vous, ce que vous aimeriez, Fabrice, c'est qu'on aide d'abord les entreprises françaises avant d'essayer d'attirer les entreprises étrangères.
Bien sûr. Là, honnêtement, je suis en train de faire des travaux. Là, je suis en train... Je suis une entreprise qui fonctionne relativement bien.
D'accord.
J'avais un potentiel de 400 000 euros de financement.
D'accord.
Et là, je suis avec des travaux de 800 000 euros et tout est annulé. Tout est voilà. On n'est pas ouvert à des entreprises françaises avec moi qui utilise que des entreprises françaises et j'ai pas de personnel, j'ai rien. Donc voilà, c'est une problématique.
Oui. En fait, on met le tapis rouge à Versailles pour les entreprises étrangères, mais en fait, on se fout totalement des entrepreneurs français qui sont en galère et de ceux qu'il y en a énormément. On a beaucoup d'appels sur
le cynisme de se pavaner comme ça.
On a besoin d'argent. En fait, l'argent, tu le prends où il est, quoi.
C'est de la politique et de la com.
Et encore une fois, voilà, Emmanuel Macron, on peut en dire tout le mal qu'on veut en com, il est plutôt très bon. Et là encore, il a été plutôt très bon parce que si vous regardez les chaînes infos, ça fait des heures et des heures qu'elles sont en boucle sur Bravo la France.
Absolument. Hier soir, aux 20h de TF1 et de France 2, même reportage sur McCain, sur la mine de lithium ou de nickel dans le sud et sur le danger potentiel de ces. Enfin, c'est exactement le même reportage
sur TF1 qu'on est dans
le 20h. Le même.
Rémi Barré, est-ce qu'on a quand même des témoignages positifs? J'ai des témoignages qui vont dans le bon sens, des gens heureux.
Très bien, oui. Il y a bien.
Pas menti. Non mais arrête.
Là, mais il y a bien un
J'ai du mal.
Bon, il y a certains qui, comme Eric, disent que, comme d'habitude, les Français râlent au lieu de se réjouir que des entreprises étrangères investissent en France. Si ce n'est pas Emmanuel Macron qui annonce tout ça, tout le monde trouverait ça génial. Il y en a marre de tous ces Français jamais contents.
Ça, c'est du cliché.
Qu'ils aillent voir ailleurs ce qu'il se passe, ils reviendront la queue entre les jambes. On trouve la France pas si mal que ça, finalement. C'est le message que j'ai trouvé.
Bon, mais comme quoi.
C'est un pur cliché.
Macron, c'est le roi de la com, mais plus personne ne lui fait confiance. Donc, c'est le roi de la com. la com. Hein.
Ah, enfin, si, les étrangers lui font confiance puisqu'ils investissent massivement en France.
Quand tu communiques un truc positif et que tout le monde te.
Ils viennent s'enrichir sur le dos. Ils viennent s'enrichir sur le dos de l'économie française. Ils viennent s'enrichir sur le dos de l'économie française.
Mais ça va quand même créer des emplois, vous verrez.
En en détruisant tout autant.
Oui, mais de toute façon, on va vers des destructions d'emplois. Mais c'est l'histoire qui veut ça. Je suis désolé, Péricot.
Oui, mais on ne veut pas de cette fatalité. Voyez, heureusement qu'on a le droit de ne pas vouloir d'une fatalité.
Mais d'accord, mais l'intelligence artificielle va détruire des emplois, mais va en créer d'autres, tu vois.
Mais oui.
Voilà. Vous savez ce que est en train de faire le président Biden, président démocrate des États-Unis? Il est en train de taxer à 100% les voitures chinoises. Donc il n'y a plus d'importation. La mairie va mourir. Ils vont se ruiner. Ça va être le chômage.
Dans quelques mois, ils auront quand même le choix entre Biden et Trump.
D'accord.
Je demande à voir le visage des États-Unis.
Non, mais c'est pas Trump, justement. C'est Biden, le démocrate libéral, qui met 100% de taxes sur les voitures chinoises. C'est un suicide pour les États-Unis, n'est-ce pas?
Non, mais on peut pas le faire, ça.
Ah, bah tiens, bah voilà. Donc voilà. Donc tout est relatif.
Alors, on vous a posé la question. On va voir ce que pensent nos auditeurs, nos téléspectateurs de cette question. Doit-on être fier de la France après ce record d'investissement étranger, Rémi?
C'est assez partagé. Pour ton retour, je te laisse le porte opportunité de la marge d'erreur, c'est le non pour 53% qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Il y en a qui ont été élus à moins que ça.
Hein. C'est un petit non.
Formule investissement étranger, c'est fondamental.
Oui. Voilà.
On vivrait pas. Mais des investissements de merde, ça n'a aucun intérêt.
Bon. RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
On peut vous appeler, on peut discuter. Peu importe ce qu'on a à dire, hein, d'accord, pas d'accord, tant que c'est dans le respect. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais pu ne pas passer à l'antenne, quoi.
De 5h à minuit, le standard RMC n'attend que vous au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec aujourd'hui Rémi Barré, Thierry Moreau, Perico Légas et Juliette Briens. Et tout de suite, on va s'intéresser à la fin programmée du jour. Et c'est celle des échantillons gratuits. Un décret lié à la loi anti-gaspillage vient de paraître. Mais Rémi, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus récupérer des mini-parfums ou des mini-crèmes à la parfumerie, ou est-ce qu'il y aura encore... On pourra faire des petites entorses au règlement?
Je sais, Estelle, que ce sujet te passionne.
Ben oui, j'ai
depuis
une
que tu l'as découvert ce matin.
J'ai une valise à échantillons,
voilà,
comme tout.
Voilà, et que tu panique un petit peu, si je peux me permettre.
Mais j'ai besoin d'un mini-crème.
Mais je vais te rassurer, Estelle. En fait, ce qui change, c'est que désormais, si le client ou la cliente, comme toi, Estelle, souhaite un échantillon dans une parfumerie, par exemple, il devra expressément en faire la demande.
Enfin, Les commerçants
sont totalement libres de le leur indiquer. Je t'explique.
Oui.
Ça peut être par affichage, par demande verbale si c'est en magasin. Donc, imagine que tu as une vendeuse ou un vendeur qui te dit, il ne manquera pas de le faire. Vous savez que vous avez le droit à un échantillon. Il pourra le faire, ça.
Oui. Tu vas lui répondre. Et moi, je vais dire, donnez-le-moi.
Et donc, il te le donnera. Voilà, on peut aussi faire la publicité.
C'est
absurde. On peut aussi faire la publicité de ces échantillons gratuits par mail ou par SMS, si c'est à distance. Par exemple, tu commandes un parfum sur Internet, on te dit, vous savez, vous pouvez avoir un échantillon. Ah bah oui, je veux, demande. Oui, tu cocheras la demande, je veux un échantillon, tu en auras un. Par ailleurs, les aliments qui ne sont pas pré-emballés et qui sont remis gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place, dans ton supermarché, sur le marché, on te propose, vous voulez goûter le saucisson, nanana.
Je goûte tout le temps.
Et bah, tu auras le droit toujours à ces échantillons.
Bah
ils peuvent continuer à distribuer. On pense donc aux morceaux de fromage charcuterie, par exemple, dans les supermarchés, et puis les échantillons qui sont inclus dans les journaux, dans les magazines.
Bah oui.
Tu sais, dans
Pif Gadget.
Le petit échantillon de crème, etc. Et bah, c'est pareil, ils pourront continuer à distribuer.
Excusez-moi, que change cette loi?
Rien.
Ça change en fait que le commerçant ne pourra plus être à l'initiative.
Voilà.
Vous savez, que vous alliez chez une grande marque de parfumeur, vous alliez à la caisse, il mettait dans le sac
d'office,
votre parfum et il rajoutait une poignée. Ça, il ne pourra plus le faire.
Voilà.
En revanche, il pourra vous dire de le prendre, il pourra l'afficher, il pourra vous envoyer des mails, il pourra vous envoyer des SMS.
Donc,
en fait, c'est vraiment typiquement la loi qui est un truc d'affichage.
Ça se vérifie comment qu'il n'a pas mis lui-même.
Alors, en plus deuxième chose, il n'y aura pas de contrôle.
Il n'y a pas de contrôle.
Mon angoisse, c'est les petites fioles.
Ça ne sert à rien.
Ça ne touche pas les petites fioles dans les minibars des hôtels, j'espère. Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est pas gratuit.
Tu les payes,
c'est
vrai.
Et c'est assez cher, si je puis me permettre.
C'est typiquement une loi affichage.
Alors, faut-il en finir avec les échantillons gratuits? C'est-à-dire, arrêter avec les échantillons. Je commence avec vous.
C'est une bonne question.
Juliette Brunas, est-ce que vous avez une valise à échantillons chez vous?
Oui, tout à fait. Moi, j'adore collectionner les petites fioles de parfum et changer de parfum tous les jours. Et ça me choque beaucoup, Estelle.
Tu changes tous les jours
un parfum? Moi, j'aime bien changer
tous les jours.
Je change. Non, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a 10 minutes, on parlait d'attractivité française pour comment donner envie aux gens
d'investir. Toi, tu donnes envie en changeant de parfum
et là,
tous les jours.
On en est allé à faire des lois pour interdire les échantillons, mais moi, je sais plus quoi faire pour nous, quoi. C'est déprimant. On a une mentalité.
Non, mais écologiquement. Déprimante. Écologiquement, par exemple, je refuse toujours le petit parfum. Mais je ne prends que les mini-crèmes. Mais en vrai.
Les mini-dentifrices chez le dentiste, c'est fini alors aussi.
Ah, mais je
non,
ah bah si,
parce que c'est
ça, je me sers moi-même.
C'est la santé, donc c'est pas touché par ça.
Oui, et non, mais j'ai aussi évidemment les mini-dentifrices, parce que quand je pars en voyage, j'ai besoin de tous mes produits en mini. Mais
non, mais l'image qu'on renvoie.
Mais écologiquement, c'est pas génial quand même. On n'a pas besoin de ces échantillons en vrai.
Parce que ça ne veut rien changer.
On va sauver partir en voyage avec un vrai dentifrice, c'est pas le mini-dentifrice.
On va sauver toutes les tortues de la terre parce qu'on n'aura plus. D'échantillons de parfum.
Ah, c'est une vérité, c'est une consommation quand même. Quand tu vas dans un magasin et que la vendeuse te dit je vous mets ça, je vous mets ça, je vous mets ça, voilà, merci, tu es très content, et puis en fait tu les utilises.
Ah,
et
on a du temps libre.
C'est
vrai,
c'est un
problème d'emballage. Parce que vous pensez que le grand volume, le contenant est moins polluant que la petite fiole. Donc je vais aller chez Guerlain avec ma bouteille vide pour aller chercher mon numéro 5 de Chanel.
Si c'est Chanel, c'est pas Guerlain déjà.
Alors Chanel ou Guerlain, je vais venir avec ma bouteille vide, puis je vais prendre en vrac,
vous savez, au robinet.
Diptyque le fait par exemple.
Ça s'appelle du marketing.
Ça s'appelle du marketing. C'est un site à de l'achat commercial. Alors, s'il faut réduire l'impact environnemental, je pense qu'il y a beaucoup d'autres produits et de phénomènes polluants qu'on pourrait supprimer que la petite fiole de parfum qui fait partie du geste commercial, la convivialité.
Mais quel geste, en fait,
toujours la restriction.
Non, mais moi, j'ai acheté beaucoup de parfums grâce à un échantillon qui m'avait plu, soit pour moi, soit pour faire un cadeau. Et vous savez que je n'ai pas honte de le dire, chaque fois que je vais dans un parfumeur, au cas où la vendeuse ne me proposerait pas, je dirais: qu'est-ce que vous avez comme échantillon?
Arrête.
Je ne demande pas.
Ça m'angoisse.
Je dis, qu'est-ce que vous avez comme bons échantillons? Allez, là, alors du coup, alors évidemment, elle me remplit le truc, puisque je suis demandeur. Si
attends,
vous demandez,
mais
vous
en avez. Tu demandes?
Non, je dis, qu'est-ce que vous avez?
Oui,
bah, vous avez...
merci, bah, donc tu demandes.
Bien sûr que je demande. Parce
tu
que...
réclames.
Mais imaginez qu'elle n'en mette pas.
Tu voudrais quand même.
Mais moi ensuite, c'est ce que je fais. Après, je ramène la fiole, je me fais rembourser, je ne garde que le gratuit. Et je me fais rembourser le.
Quel rat,
mon Dieu.
Non, mais je connais des gens, évidemment pas moi, je connais des gens qui font. Non, c'est très important. Une parfumerie, vous avez le nouveau parfum, la nouvelle gamme, vous sentez. C'est très... Non, c'est culturel, c'est quasiment culturel. C'est pas ça qui fait du mal à la France, vous voyez.
Non, ça j'entends.
Non, mais tout est polluant, en fait. Tout est polluant. Même envoyer un email, c'est polluant. Même une newsletter, c'est
oui,
polluant.
Je suis d'accord.
Mais non, mais à ce compte-là, on interdit tout.
Une émission c'est comme ça.
On n'est pas sur le même ordre de grandeur quand t'as un continent de plastique.
Ils veulent tout interdire et nous pourrir la vie. Et Juliette. on leur donne. Alors ils prennent.
On t'a enlevé les pailles en plastique, ça a changé ta vie. Non,
Juliette,
bon, bah, tu
il t'échappera pas.
Alors, ça a bien changé ma vie, oui, parce que je me retrouvais avec du carton mouillé dans mes mojitos et ça m'énerve profondément. Et j'adore les pailles en plastique. Vive les pailles en plastique. Voilà, je
c'est un problème d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que tu as un continent plastique aujourd'hui.
Et coton qui sont tout mous.
N'écoute pas ce qu'on te dit, en fait. N'écoute pas ce qu'on te dit. C'est un problème d'ordre de grandeur. C'est-à-dire que les pailles en plastique que tu adores, ça a créé au fil des années un continent de plastique dans les océans, un continent de plastique. Donc il faut bien faire quelque chose. Le seul problème, c'est que cette loi ne règle rien.
Ça, c'est vrai.
En fait, c'est ça le problème. Donc c'est vraiment de l'affichage. C'est de la com.
En fait,
c'est
on
de
va
la
pas
politique.
On regardait dans les hôtels et j'étais la première à le déplorer parce que j'aimais beaucoup piquer dans les hôtels, vous savez, les mini shampoings et tout ça. Bon, bah, aujourd'hui, on peut plus les piquer parce qu'il n'y a plus que des gros shampoings.
Ouais.
En vrai, je m'y suis faite.
Ah oui.
Car je pensais que c'était une catastrophe et finalement, je vis
dans les hôtels de luxe, c'est toujours des petits échantillons.
Il y a encore des hôtels où vous avez des marques de luxe.
Oui, c'est ça.
Sinon, vous avez la grosse fiole.
C'est des trucs.
Sinon, vous avez la grosse fiole de shampoing vissée dans le mur.
Oui, bah, c'est ça.
J'ai pas dit que c'était une catastrophe. Je dis que c'est la mentalité générale dans ce pays de la restriction et de l'interdiction qui devient insupportable pour tout le monde, c'est tout. Et franchement, les pailles en plastique et les cotons-tiges en plastique, c'est pas la fin de mon monde, mais c'était mieux avant, voilà, c'était moins chiant.
C'était fabriqué en Chine quand même.
Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne Ghislaine qui nous appelle de Rochemort dans l'Ardèche et qui est retraitée. Bonjour Ghislaine.
Oui, bonjour.
Ghislaine, est-ce que vous faites partie de ces gens comme Perico qui réclament des échantillons à la parfumerie ou au supermarché?
Non, parce que déjà, je l'ai signalé à l'antenne. Il y a eu un temps où j'ai acheté beaucoup de magazines féminins, je collectionnais les échantillons, mais en fait, je les utilisais pas. Ouais. Parce qu'on peut pas tester une crème sur 3 jours. Hein. Alors les parfums, je veux bien, pour qu'on sente, mais le reste, c'est un peu inutile. Et nous, moi, j'habite en zone rurale, et on vient nous imposer ces nouvelles collectes. Je suis obligée de prendre ma voiture pour poser mes poubelles que j'ai moi-même triées. Mmh. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément d'emballage. Je me dis, il faut plus rien acheter pour pas avoir d'emballage. Et je prends ma voiture pour aller les déposer. Alors maintenant, je suis pas pour une écologie à tout craint, mais quand même réduire un peu tout ce qui est inutile.
Mais je suis assez d'accord avec vous, Ghislaine. C'est quand même du bon sens parce que, en vrai, si vous allez, pour pas les citer, mettons, chez Sephora, ils vous donnent 5 échantillons. Sur les 5 échantillons, franchement, combien vous allez utiliser? Peut-être un, parce qu'il y a une crème que vous avez envie d'essayer. Le parfum, ça se trouve, vous l'aimez pas. Mais en fait, vous pouvez pas choisir vos échantillons. C'est ça le problème. À la limite, il faudrait que, pour réduire les échantillons, vous avez droit à un échantillon gratuit, vous choisissez. Et comme ça vous permettrait de l'utiliser. Parce que la plupart des parfums, vous les utilisez pas. C'est ça le problème. En fait, on nous donne des choses. C'est comme les goodies. Vous savez, vous allez à un congrès de société, etc. Ah oui, vous repartez avec un tote bag, trucs, ouais. Avec des autocollants, un t-shirt que vous mettrez jamais, un stylo que vous allez peut-être utiliser.
Marketing,
mais oui, mais
voilà.
Oui, mais ça c'est. Mais oui, mais à un moment.
Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on ne s'arrêtera nulle part.
Oui, mais on peut pas continuer comme ça. Je veux dire, à distribuer des trucs gratuits dont les gens ne se servent pas. Mais non, mais on peut pas critiquer Chine en permanence en disant ouais, c'est incroyable ce qu'ils font pour la planète, oui, et ça. En même temps avoir des goodies. Alors il y a des goodies écolos, ça c'est top, mais avoir des goodies de tous les côtés. Mais le nombre de t-shirts avec des noms de sociétés que vous avez, alors qu'en fait personne les utilise, personne. Et donc on se retrouve avec plein de trucs qui ça ne va pas.
Les pailles dont tu parlais, c'est dans le top 10 des déchets qu'on retrouve sur les plages. Chaque jour, 500 millions de pailles en plastique sont consommées aux États-Unis. 500 millions de pailles en plastique. Et elles terminent où ? Dans l'environnement. Parce qu'elles ne sont pas recyclées.
Je ne suis pas du tout en colère pour les pailles en plastique.
Tu vois ce que je veux dire.
Des petits gestes
peuvent parfois aider quand même.
Ouais. Mais c'est vrai que pour en avoir retesté là, parce qu'aux États-Unis il y a encore des pailles en plastique. En vrai, ça monte.
C'est autre chose.
C'est mieux. Oui, c'est mieux. Je ne vais pas rester sur le bambou.
Je vais être gentille. C'est vrai qu'au début, il n'y avait que les pailles en carton. Et là, avec l'innovation et l'investissement, ils ont.
Voilà,
il y a du faux plastique. Il y a des pailles en faux plastique qui sont beaucoup plus agréables qu'avant. Donc, c'est. Mon monde redevient un peu vivable.
Sinon, la vraie paille, petit avec le blé.
Merci Ghislaine, en tout cas, d'avoir été avec nous. On a trop d'emballage, nous dit Ghislaine, et je suis assez d'accord avec elle. Olivier, également, est en ligne, il nous appelle de l'Oise. Il est préparateur de commandes. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur ce débat, Olivier. Est-ce qu'il faut arrêter avec les échantillons gratuits?
Moi, je pense que non, pas forcément, mais sur certains cas, oui.
C'est-à-dire?
Moi, samedi, j'ai pu aller dans une boutique de parfum où la vendeuse, elle a eu une belle vente avec une cliente qui était devant moi. Mm-hmm. Et donc, elle lui a remis quelques échantillons gratuits. Donc, et la cliente a refusé la vente pour pouvoir récupérer ses échantillons gratuits. La vendeuse, elle s'est retrouvée avec tout son stock.
C'est comme Péricot qui dit, en fait, vous rendez votre parfum à la parfumerie et vous gardez les échantillons gratuits, quoi.
C'est ça.
Ah ouais, ça m'était même pas venu à l'esprit.
Il paraît que c'est très courant.
Mais c'est incroyable. Olivier, dans ces cas-là, on supprime les échantillons alors?
Il ne faudrait pas les supprimer pour les clientes qui payent. Il faudrait les supprimer pour les gens qui en profitent.
Bon, en fait, il faudrait les donner une fois qu'on a payé. C'est ça, voilà.
Mais ça sert à quoi alors? Mais c'est pas ça le truc du marketing?
Olivier.
Mais non, mais ça va à l'encontre.
On va pas te filer un truc alors que t'as pas payé.
Mais ça va à l'encontre de l'intérêt de l'échantillon. L'intérêt de l'échantillon, c'est de faire découvrir son parfum et de susciter l'achat, exactement.
Et pas du tout, l'échantillon, on te le donne une fois que tu as acheté.
Quelqu'un qui a déjà acheté.
Bien sûr que si, l'échantillon. Tu vas chez Sephora, par exemple, t'achètes ton parfum, et là, il te file des trucs.
Par exemple, un truc, une crème en plus, et donc qui suscite sur un autre secteur un achat, mais pas celui que tu viens de faire, évidemment.
Merci Olivier, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et Rémi, vous avez des messages sur la RMC.
Des malins quand même, je le disais. Il y a Guy qui dit quand j'achète un parfum pour ma compagne, c'est très gentil de sa part.
Il garde des échantillons pour sa maîtresse.
Je réclame des échantillons qui me sont suffisants pour me parfumer pendant un long moment, nous dit-il.
Mais les gens font vraiment.
Il fait un 2 en 1, quoi.
Non, mais alors, en tant qu'homme,
c'est fait pour.
Quand j'étais jeune, je ne me parfumais qu'avec des échantillons lorsque j'étais étudiant.
Ça ne me venait pas
esprit. Ça ne serait jamais venu à l'idée.
Non.
C'est quand t'es étudiant.
Et alors
je m'en faisais offrir par mes parents une fois par an.
Je ne vais pas vous les sortir, j'en ai toujours dans ma poche.
Je ne changerai pas tous les jours.
L'argent que ça doit représenter pour les entreprises de sortir. sortir des petits échantillons comme ça. Si, c'est que c'est qu'à un moment donné, s'ils le font, s'ils le font, c'est que ça leur amène vraiment quelque chose.
Je pense que le rapport qualité-prix entre la bouteille de parfum qui t'est vendue et ce que ça coûte à produire.
Alors je vous donne l'info, il est facturé dans le produit. En fait, c'est pas un cadeau.
Alors je vous lis juste le témoignage de Joyce qui nous appelle d'ici les Moulineaux. Elle est conseillère en vente beauté et elle nous dit les échantillons déclenchent un effet d'achat. Ils permettent de se faire une idée ou une découverte pour soi ou pour offrir.
Évidemment.
Donc en fait, les entreprises, quand elles donnent des échantillons, c'est parce qu'elles savent que quelque part ça marche et qu'il y a évidemment un retour sur investissement. Alors on a fait un sondage, Rémi, sur la fin de ces échantillons gratuits. D'accord, pas d'accord?
Vous êtes pas d'accord à 75% comme Estelle Denis.
Avec quoi?
75% de ceux qui se sont prononcés sur nos réseaux sociaux ne veulent pas l'interdiction des échantillons.
Évidemment.
Ah, d'accord.
Évidemment.
Ah oui, j'ai dit, ils sont d'accord avec ça.
Oui,
et on va continuer à polluer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais non, mais si, il y a quand même un moment. Mais